rapide pour laisser la place au débat. Alors, très rapidement, je suis économiste. Et on peut être économiste et ne pas croire à la croissance exponentielle, c'est tout à fait possible. Simplement, pour préciser un petit peu les choses, bon, voilà le titre de la communication, hein, sur la croissance zéro et sur l'état stationnaire. Hein. Sur ce titre-là, je voudrais peut-être d'abord préciser les notions de croissance économique et développement rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé et parfois la confusion pouvait intervenir. La croissance économique, de manière très simple, c'est apprécier à travers un agrégat le niveau de richesse d'une économie. Donc très généralement, ça peut être le PIB, le produit intérieur brut, le niveau donc de ce PIB, voire le PIB par tête, et donc ramener finalement la richesse d'un pays au nombre d'habitants, et donc c'est un agrégat donc par tête en général qui permet d'apprécier la croissance économique. Le développement, c'est tout autre chose. Je citerai un économiste des plus néoclassiques, qui est Edmond Malinvaux, qui écrit en 91 « La croissance économique n'est pas synonyme de développement. Une notion, dit-il, qui évoque des valeurs humaines, sociales, culturelles, voire psychologiques. Mais la croissance est généralement perçue comme favorable au développement. » Et c'est bien là le souci qui nous amène à ce qu'a présenté tout à l'heure Thierry Jacquot, au problème donc du développement et de la croissance de l'environnement dans les années 70, tels que les termes de ce débat ont émergé. Donc la croissance et le développement sont deux notions très distinctes. Le développement, on peut l'apprécier à travers différents indicateurs. Bon, les indicateurs de développement humain que vous avez pu rencontrer sont très nombreux pour essayer de qualifier ce concept. On va voir, et c'est l'approche que je vous propose, au travers donc des apports de Georgescu Reagan, comment effectivement le développement peut être apprécié et comment le changement au sein donc d'un système économique peut être apprécié de manière qualitative cette fois-ci. Alors, en ce qui concerne les termes du débat sur les années 70, je n'y reviens pas. Bon, les questions qui émergent essentiellement sont celles de la raréfaction des ressources naturelles à ce moment-là, avec, donc, on l'a dit, je ne veux pas insister plus, le thème de la croissance zéro, qui, bon, halte à la croissance, on ne veut plus de croissance, il faut tout stopper. Par rapport à tout ça, le rôle du progrès technique est assez ambivalent. On a pu voir dans de nombreuses études que celui-ci permettait de reculer sans cesse les limites des ressources que l'on pouvait prélever, des ressources notamment énergétiques. On y reviendra. Plus près de nous, à la fin des années 80, un autre thème apparaît qui nous conduira un peu plus tard sur la thématique du développement durable. C'est la question des pollutions dites globales. On en a également beaucoup parlé, donc problème lié à l'accroissement du CO2 dans l'atmosphère, notamment, ou à d'autres effets. J'ai retenu en particulier celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il est assez significatif. J'aurais pu d'ailleurs tracer une courbe, ça aurait été peut-être plus pertinent, mais enfin, on voit bien le souci, et ça a été évoqué également ce matin par un intervenant, dont je n'y reviens pas, la croissance donc continue et de nature exponentielle de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Alors, les économistes se sont un petit peu intéressés à cette question par rapport donc problème de la croissance, à savoir comment la pollution ou la dégradation de l'environnement pouvait être mise en relation avec la question de la croissance économique. Ça a donné lieu ces dernières années à un certain nombre de travaux autour donc de ce qui a été qualifié de courbe de Kuznets. C'est simplement une courbe en U inversée qui montre la chose suivante, c'est-à-dire que le développement d'un pays s'observe en trois phases. Une première phase où le niveau de revenu par tête dans l'économie est très faible, le niveau de la production est également faible et les dégradations sont légères. Mais au fur et à mesure que l'économie se développe, le système économique donc se développe, eh bien, il accède à un second niveau, à une deuxième phase plutôt, où là, donc, on a une augmentation, certes, du revenu par tête, mais une augmentation très forte de la production, accompagnée également d'un niveau donc, de pollution notable. La troisième phase, ou dernière phase de cette courbe, serait un ralentissement de la croissance du revenu par tête, avec parallèlement un niveau de production donc relativement stabilisé, un niveau donc de pollution qui serait sensiblement diminué. Bon. Ceci étant, ce qui concerne donc la relation concernant donc croissance et niveau de pollution, on peut noter que un élément qui explique cela, c'est en fait l'énergie par unité de PIB, ce qu'on appelle autrement dit l'intensité énergétique. Vous avez là un graphique qui permet de l'apprécier pour quelques pays sur une échelle de temps donc de 1960 à 2000, qui montre effectivement que cette intensité énergétique a pu donc sur ces quelques décennies diminuer, se stabiliser. Bon, effectivement, c'est un facteur qui peut expliquer cette évolution donc traduite par la courbe de Kuznets. Mais je tiens à signaler que cette courbe au niveau empirique n'est pas vérifiée pour tous les types de pollution et pas pour tous les pays également. De nombreux travaux ont été faits dans ce sens. Bon, je pourrais vous donner, si vous êtes intéressé, des références, mais sachez donc que cette relation-là fait l'objet d'un certain nombre donc, de questionnements. Alors, un autre problème sur lequel je ne veux pas intervenir trop longtemps, puisque tout à l'heure, un auditeur le conférencier va prendre le relais sur l'effet de rebond, c'est un autre donc, élément qui lie cette fois-ci l'intensité énergétique et la consommation d'énergie finale. En fait, qu'est-ce que l'on a observé ? On a vu tout à l'heure que l'intensité énergétique donc, du PIB diminuait. Parallèlement à cette évolution, sur la même période et pour les mêmes pays, la source n'est pas indiquée, mais c'est la même, on voit que la consommation d'énergie par habitant a augmenté, consommation d'énergie finale. Donc, vous voyez qu'il y a là un petit problème, en fait un paradoxe évident, entre d'une part la réduction de l'intensité énergétique au niveau de l'économie, et d'autre part le fait que, malgré tout, eh bien, la consommation et le niveau de la demande finale continuent à progresser, continuent à croître. Ce qui rejoint finalement les différents scénarios qui ont été proposés en termes donc de croissance de la demande énergétique mondiale, on est toujours sur une pente finalement ascendante. Alors par rapport à tout ça, si on regarde du côté des apports de Georgescu Reagan, compte tenu de cela, qu'est-ce qu'on peut envisager quant à la croissance économique ? Alors, très rapidement, chez Georgescu Reagan, il y a une relation très forte entre l'économie et l'environnement, plus précisément entre le système économique et son environnement, avec lequel il y a donc en permanence des flux d'énergie et de matière donc, qui sont échangés. Mais plus précisément, l'apport majeur donc, de Georgescu Reagan, qui a été beaucoup influencé par un autre économiste dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui est Schumpeter, c'est de considérer finalement que le développement économique et donc l'évolution d'un système économique peut avoir finalement deux contenus. On peut considérer un contenu, on l'a dit tout à l'heure, quantitatif, la croissance, mais on peut aussi considérer un contenu qualitatif et donc le développement d'un système économique si on considère que ce système économique subit des transformations intérieures telles qu'il va finalement être modifié de façon majeure. Des exemples possibles, ça peut être des innovations, changement donc de source d'énergie. On a évoqué un petit peu cette question indirectement ce matin. Donc effectivement, des innovations majeures telles que l'apparition de nouvelles sources d'énergie peut faire en sorte que le système économique donc évolue de manière qualitative sur un nouveau sentier, donc si vous voulez, d'évolution, qui change donc fondamentalement dans ses structures. Donc, ça, c'est la vision de Schumpeter qui est très présente chez Georgescu Reagan lorsqu'il donne finalement lorsqu'il donne une lecture un peu particulière de l'économie, dans le sens où il considère que le système économique, c'est un système qui est ancré dans la nature, ancré dans l'environnement. Et donc, il va essayer de comprendre l'évolution de ce système en prenant en compte une loi de la physique qui est la loi d'entropie, qui montre comment tout système, donc de manière très simple, isolée, peut évoluer d'un état d'ordre vers un état de désordre, autrement dit, d'un état où il dispose d'une certaine quantité d'énergie de matière disponible pour des transformations, pour satisfaire à des besoins, et cette évolution va inéluctablement l'amener, en fin de course, vers une dégradation de ces matériaux, vers donc la production physique de déchets à travers la dissipation de l'énergie et de la matière. Bon, on pourra, si vous le souhaitez, revenir plus en détail. Alors, la conséquence dans son analyse de l'évolution d'un système économique et la source donc, du changement économique, eh bien, c'est de dire qu'avec cette lecture, inéluctablement, on réduit les quantités de ressources naturelles de manière globale et qu'au fond, l'expression la plus forte de la rareté trouve sa source dans la loi d'entropie. C'est elle qui est vraiment à l'origine de la rareté de ces ressources. Et par ailleurs, donc, simultanément, un mouvement de dégradation des éléments naturels dont les ressources sont dégradées, leur qualité se dégrade dans le processus, donc, dans l'évolution de ce système économique, à travers imaginer des procédés de production. Je pense que l'image est tout à fait envisageable. Et donc, pollution majeure, bref, autant de facteurs qui peuvent être limitants pour la croissance économique. Dans la croissance économique, effectivement, même si Georgescu Reagan n'a jamais parlé de décroissance, enfin en tout cas il ne l'a jamais écrit, la croissance économique n'est pas possible et effectivement elle conduit inévitablement, si on suit cette analyse, à des modes de production et de consommation qui sont nécessairement remis en cause. On ne peut plus donc les considérer en l'état. Alors, par rapport à ça, est-ce que la croissance zéro, qu'on peut aussi qualifier d'état stationnaire, hein, donc un état où toutes les variables par taux ou en niveau sont constantes dans le temps, hein, donc le taux de croissance effectivement de l'économie est nul, dans ce cas-là, est-ce que c'est une solution? Eh bien, selon l'approche de Georgescu Reagan, il s'avère que non, pour trois raisons essentiellement. D'abord, l'environnement effectivement est fini, la Terre est un système donc clos sur l'univers, le seul flux étant, enfin, fermé, pardon, du point de vue de la matière, le seul flux donc entrant étant le flux d'énergie solaire. À partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'envisage pas le système économique sans son environnement, donc sans des prélèvements, donc flux continu, si vous préférez, d'énergie de matière, qui vont donc le nourrir et vont permettre à ce système de perdurer. Deuxième idée, on prend en compte la loi d'entropie. Dans ce cas, un système donc à l'état stationnaire du point de vue économique est aberrant. On ne peut jamais reproduire à l'identique un tel système, puisque la loi d'entropie oriente l'évolution de ce dernier, hein, d'un état, comme je l'ai dit, d'énergie disponible ou un état final où l'énergie sera donc dissipée. Et apparaît aussi un autre élément, le déchet, qui inévitablement est un flux essentiel. Essentiel au sens où, même si on parle de technologie propre, une technologie propre, c'est un abus de langage que de considérer qu'elle produit 0% de... Enfin, aucun déchet. Il y a forcément une production non nulle de déchets, ne serait-ce que par les frottements. Troisième idée qui milite en faveur des limites de cet état, c'est que la matière se dissipe, hein, tout comme l'énergie. Bon, ça renvoie là aussi à un autre rapport de Georgescu Reagan sur l'élargissement ou l'adaptation de la loi d'entropie qui s'applique à l'énergie, qu'il a appliqué donc ici à la matière, pour finalement considérer que la biosphère est un système clos, même si on considérait le recyclage comme finalement un processus qui permettrait de faire perdurer ou durer plus longtemps les ressources, et bien malgré tout, même quand on recycle, la matière se dissipe. Donc la ressource rare sur Terre, c'est bien ce qu'il appelle la matière accessible, bien plus que l'énergie, puisqu'on a toujours un flux d'énergie solaire qui entre dans le système. Alors, par rapport à tout ça, là aussi, dans la continuité des travaux de Georgescu Reagan, développement économique et décroissance, c'est tout à fait possible. Il y a deux voies envisageables. La première est celle de réduire la production en volume, et j'ai bien dit en volume et non pas en valeur. Hein, autrement dit, je ne m'inscris pas du tout là dans la croissance économique, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure. Hein, on réduit donc ici en volume, ce qui permet tout à fait d'envisager un maintien, donc une permanence du niveau de revenu de l'économie. À partir de là, comment on peut y arriver? Eh bien, ça a été évoqué aussi tout au long de la matinée. Les deux voies, ce sont effectivement consommateurs et producteurs, comme l'indique la théorie économique, ces deux agents économiques représentatifs. Pour ce qui est du producteur, eh bien, il s'agit pour lui de modifier les processus de production de manière à réduire les quantités d'énergie et de matière consommées. Donc, on intervient ici en amont du système économique. Ceci permettra bien sûr de réduire les quantités en volume. Deuxième idée, changer donc les préférences des consommateurs. Donc ici, je rejoins l'analyse de Mauro Bonaiut qui fera une intervention demain, qui effectivement parle de développer ou de produire d'autres types de biens qui existent déjà, mais qu'il faudrait peut-être revaloriser ou mieux considérer du point de vue économique. Ce sont les biens relationnels. Culture, soins, bien-être, etc. Donc, un changement, là aussi, au niveau des comportements des agents consommateurs. Donc, à la fois producteurs et consommateurs, on est tous concernés. C'est là le point essentiel. Alors, l'apport, pour terminer, de Georgescu Reagan, me semble-t-il, c'est d'abord de considérer qu'il ne peut pas y avoir de développement si on laisse de côté la dimension écologique et la dimension historique. À savoir que dans son apport majeur, eh bien, on considère non seulement les générations présentes, mais aussi les générations à venir. Donc le souci d'équité intergénérationnelle est présent. Il est présent dans son programme bioéconomique, qui sera sûrement présenté demain, donc je ne veux pas aller plus loin, à travers notamment le... Donc, deuxième, enfin, avant d'arriver au deuxième point, pardon, concernant la conservation des ressources naturelles, ce principe-là est évoqué effectivement aussi comme un principe au sein du programme bioéconomique chez Georges Sporeghan. Bon, enfin, il me semble également, on en a un petit peu parlé, ça a été évoqué tout à l'heure par un intervenant, Jonas, effectivement, Hans Jonas, c'est un philosophe allemand qui a encore peu d'influence chez les économistes, mais ça change petit à petit. C'est son principe de responsabilité, c'est-à-dire c'est agir de façon à ce que les actions donc, n'hypothèquent pas des choix ou en tout cas des possibilités pour les générations futures, de façon donc à ce que nos actions finalement soient compatibles avec un environnement qui permettrait, selon ces termes, une vie authentiquement humaine sur Terre. Donc il me semble que la voie qu'inscrit Georges Sporeghan dans son approche se trouve tout à fait en cohésion finalement avec ce principe de responsabilité présent chez Jonas. Et pour finir, eh bien, je dirais que au niveau global, là aussi au niveau de la planète, on ne peut pas concilier le développement et la croissance, mais on peut concilier développement et décroissance, hein, tels que je les ai présentés jusqu'ici. Pour cela, il me semble là aussi que le principe de minimisation des regrets que Georges Sporeghan a présenté permettrait d'aller vers des sentiers de décroissance durable et de construire finalement au niveau économique de tels sentiers. De quoi s'agit-il? Eh bien, en économie, en général, on fait quoi? On maximise pour le consommateur, par exemple, une fonction d'utilité, une fonction de bien-être, sous contrainte de disponibilité de ressources. Et on essaye donc de donner à cet agent représentatif qu'est le consommateur un niveau de bien-être le plus élevé possible, compte tenu des dotations disponibles. Donc ici, ce serait une proposition un peu différente, puisqu'il s'agirait non plus de maximiser, mais de minimiser les regrets donc, que pourraient avoir donc, les générations, notamment actuelles, compte tenu du fait eh bien, qu'on serait amené à considérer comme contrainte, finalement, un niveau d'utilité ou un niveau de bien-être acceptable pour la société. Vous voyez, ce serait une logique un petit peu différente qui permettrait, me semble-t-il, mais ça reste une piste hein, pour le travail d'ailleurs, pour la recherche, mais aussi donc, pour avancer dans le débat, je crois, pour construire des sentiers de décroissance durable que ce principe-là, donc, qui est dû à Georges Sporeghan. Voilà, j'ai terminé l'exposé. Je vous remercie de votre attention.